J'ai deux questions pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'adorer Dieu? Et comment pouvons-nous être sûrs de l'adorer? La parole de Dieu va nous donner les réponses à ces deux questions bien clairement, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je suis toujours émerveillée du fait qu'on puisse apprendre tant de choses par des écrits qui ont été inspirés il y a des milliers d'années. On peut vraiment voir que la Bible a été inspirée de Dieu et qu'elle est vivante. Voici quelques questions pour nous. Qu'est-ce que le lieu saint, le chandelier d'or, la table des pains de proposition et l'autel des parfums signifient pour nous qui sommes croyants aujourd'hui? Que devons-nous faire avant de pouvoir adorer Dieu? Dieu a-t-il vraiment pourvu à un salut gratuit en Jésus-Christ? Est-ce que Dieu pourvoit à nos besoins physiques? Est-ce qu'il pourvoit à nos besoins spirituels? Comment pouvons-nous nous approprier le pain de vie qui est Jésus? Comment pouvons-nous être sûrs d'adorer Dieu? Selon la parole de Dieu, qui est notre souverain sacrificateur? Tant de questions et tant de belles réponses, des réponses de Dieu. Voyez-vous quel privilège nous avons de pouvoir connaître Dieu et sa parole? On n'a qu'à lire la Bible. Et merci Seigneur parce qu'on vit dans un pays où on a la pleine liberté de se la procurer, de la lire. Un pays où on a des prédicateurs qui sont aussi dans cette liberté pour pouvoir nous enseigner la sagesse de Dieu pour le faire. Demeurez donc à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a la Bible en main. Il est prêt à nous donner ce bon enseignement, cet enseignement précieux de la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Oh oui, Seigneur, ton enseignement est précieux, précieux pour nous qui connaissons ta volonté, qui te connaissons intimement. Touche nos cœurs et touche le cœur aussi de ceux qui ne te connaissent pas encore. Aujourd'hui, par ta parole, touche les cœurs, sauve des âmes, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Maintenant, nous allons passer au lieu saint pour examiner un troisième article du mobilier du tabernacle. Nous allons examiner la table des pains de proposition. À la dernière émission, nous avons vu les deux articles mobiliers du lieu très saint, l'arche et le propitiatoire. Maintenant, nous allons étudier la table des pains de proposition et le chandelier d'or. Ce sont deux articles qui ont une grande importance pour nous. Ces articles nous enseignent au sujet de l'adoration. Le lieu saint est un lieu d'adoration. Le chandelier d'or est la meilleure image de Christ que nous ayons. La table des pains de proposition nous rappelle que Christ est le pain de vie. L'autel des parfums nous parle de la prière. Cet autel nous rappelle que Christ, notre médiateur, intercède pour nous et que nous devons nous approcher de Dieu par lui. Nous ne lirons pas toutes les instructions pour la fabrication des articles du tabernacle. Cela risquerait d'être un peu ennuyant. Ce serait comme lire un plan, ce qui n'est pas la lecture la plus passionnante. Nous allons nous en tenir aux items essentiels. Nous allons cependant faire ressortir quelques perles spirituelles du texte. Le tabernacle est meublé avec 7 articles disposés dans 3 sections différentes. Nous les examinons en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Le tabernacle lui-même mesurait 10 coudées par 30 coudées. Il était composé du lieu saint et du lieu très saint. Ce lieu très saint avait une forme cubique de 10 coudées d'arête. C'est là que se trouvaient l'arche de l'Alliance et le propitiatoire. 2 chérubins couvraient le propitiatoire de leurs ailes. c'est la partie du tabernacle qui était plus ornée que les autres. On n'y retrouvait aucune idole. Les chérubins regardaient le dessus du propitiatoire sur lequel le sang était aspergé. C'est exactement ce qu'Adam et Ève ont vu lorsque Dieu les a chassés du paradis terrestre. Ils ont vu des chérubins garder le chemin qui mène à la vie. Ils ont vu le sang des animaux dont ils portaient la peau. Les chérubins regardaient vers le bas, ce qui a gardé le chemin vers la vie ouvert. Dieu n'a pas fermé le chemin qui menait au paradis. Il a conservé un chemin ouvert afin qu'Adam et Ève puissent revenir à lui. Donc, le propitiatoire est une réplique de la scène qu'ont vue Adam et Ève lorsqu'ils furent chassés du paradis. Maintenant, ce propitiatoire est une image de celui que Christ a aménagé pour nous au ciel. En fait, le trône de Dieu est devenu un propitiatoire. Christ est mort sur terre et il a emporté son sang au ciel pour le présenter à Dieu. Le trône de Dieu est un endroit où vous et moi pouvons aller pour obtenir miséricorde. Lorsque nous allons dans le lieu saint, qui est la cour extérieure, au lieu très saint, nous voyons trois articles de mobilier. Un autel de parfum en or, un chandelier d'or et une table des pains de proposition. Ce lieu très saint était un endroit d'adoration. Ce symbole nous enseigne l'adoration. Finalement, dans la cour extérieure, au tabernacle, un autel d'airain avait été aménagé ainsi qu'une cuve d'airain. C'est dans cet endroit que nous voyons comment Dieu règle la question du péché en Christ. Avant de pouvoir adorer Dieu, il faut premièrement que notre péché soit effacé par le sang d'un sacrifice. Maintenant, nous allons examiner la table des pains de proposition. Sur cette table, les prêtres plaçaient deux rangées de 6 pains chaque, un pour chaque tribu d'Israël. Dieu pourvoyait également pour chaque tribu, signe de sa fidélité. Débutons notre lecture, chers amis. Exode chapitre 25, verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Cette table, rectangulaire, est 2 fois plus longue que large. Elle est de la même hauteur que le propitiatoire ou l'arche. Verset 24. Tu la couvriras d'or pur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Une bordure autour de la table empêchait le pain de tomber. Versets 25 et 26. Tu y feras, à l'entour, un rebord de 4 doigts, sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux 4 coins, qui seront à ses 4 pieds. Dans ces anneaux, on passait les barres qui permettaient de tenir la table pendant qu'on la transportait dans le désert. La table était portée sur les épaules des prêtres. Versets 29 et 30. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Ce pain, ou ces pains, est une image de Christ. Donc, la table aussi est une image de Christ. Elle illustre la personne de Christ. La table des pains de proposition nous suggère plusieurs éléments. Elle parle de la providence de Dieu, de nourriture et d'approvisionnement. Cette table nous enseigne au sujet de notre salut. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14, Jésus nous raconte la parabole du festin des noces. Les invités ont refusé de venir aux noces du fils du roi. Le roi fit périr les meurtriers qui ont tué ses serviteurs, et ensuite, il a envoyé ses serviteurs dans le carrefour afin d'inviter tous ceux qui s'y trouveraient afin qu'ils viennent prendre part au festin des noces. Aujourd'hui, Dieu nous invite à recevoir son salut qu'il nous propose gratuitement en Jésus-Christ. La table nous parle de la providence de Dieu qui pourvoit la nourriture nécessaire à ses créatures. Que nous aimions cela ou non, nous mangeons chaque jour à la table de Dieu. C'est lui qui pourvoit la nourriture aux êtres vivants. Très peu de gens reconnaissent ce fait et remercient Dieu pour son abondante générosité. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Cette table nous rappelle aussi la Sainte Cène que Jésus-Christ a personnellement instituée juste avant de donner sa vie à la croix pour nos péchés. Cette table parle aux croyants. Elle est une image de Christ qui pourvoit aux besoins spirituels des croyants. La table mesurait 2 coudées de long et 1 coudée de large. Elle avait une hauteur 1,5 coudées. Elle était fabriquée de bois d'acacia et recouverte d'or. Ce bois d'acacia, qui pourrit difficilement, nous parle de l'humanité de Christ. Ce bois était le produit de la terre, mais il résistait aux réactions chimiques naturelles et ne se décomposait pas facilement. De la même façon, Christ avait un corps terrestre, mais conçu dans le sein d'une vierge. L'or nous rappelle la divinité de Christ. L'or n'est pas produit par le sol, c'est un élément distinct qui a sa propre essence. La nature divine de Christ n'était pas d'origine terrestre. Il était Dieu et il avait quitté sa gloire céleste pour venir sur cette terre. Les prêtres plaçaient 12 miches de pain sur la table. Nous parlons de la table et du pain comme s'ils étaient une seule et même chose. Lorsque nos amis anglophones emploient l'expression « la table du Seigneur », c'est une métonymie. Ce n'est pas la table que nous mangeons, mais le pain qui est servi. Nous trouvons beaucoup de métonymies dans la Bible. Le pain était remplacé à chaque jour de sabbat. Le pain retiré était mangé avec du vin par les prêtres dans le lieu saint. Cette table n'est pas une image de Christ identique à celle de la manne. Les 2 photographies furent prises sous un angle différent. La manne nous parle de Christ qui est la source de vie. C'est le Seigneur lui-même qui nous a donné cette interprétation que nous retrouvons dans l'Évangile selon Jean chapitre 6, verset 32. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Et dans le même discours, il a ajouté, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean chapitre 6, verset 35. La table des pains de proposition nous montre Christ qui maintient la vie. La vie éternelle est un cadeau qui est représenté par la manne venue du ciel. Celui qui reçoit la manne reçoit la vie éternelle. Cependant, cette vie éternelle doit être soutenue par une alimentation afin qu'elle croisse et s'affermisse. La table des pains de proposition nous présente Christ comme la nourriture qui nous soutient après avoir mangé la manne. Une autre illustration nous révèle aussi un autre aspect de Christ. Les pains étaient cuits à partir de grains moulus et sans levain. Dans le livre de Lévitique, chapitre 24, verset 5, nous lisons « Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2/10. » De plus, Jésus a dit « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Citation de Jean, chapitre 12, verset 24. Le Christ lui-même est passé sous la meule de la souffrance afin de se faire moudre. Dans son angoisse, Christ a dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jean, chapitre 12, versets 31 et 32. Jésus nous dit qu'il devait passer par la souffrance et le jugement. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité parce que son âme n'a pas connu la corruption. Maintenant, il vit avec un corps ressuscité. Il est le pain de proposition que les croyants peuvent manger afin de croître spirituellement. Le chrétien doit se nourrir du Christ vivant. Il doit s'approprier du Christ vivant qui est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Je suis le pain de vie. » Jean chapitre 6, verset 35. Un ancien proverbe affirme que les êtres vivants croissent en fonction de ce qu'ils mangent. Les livres traitant de régime alimentaire affirment souvent que nous sommes ce que nous mangeons. De quoi vous nourrissez-vous? Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que trop de chrétiens ne se nourrissent pas de Christ. Pour croître spirituellement, vous devez vous approprier de Christ. Dans une lettre de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, l'auteur nous dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Nous devons nous nourrir de Christ tel qu'il est aujourd'hui, le Christ vivant, et nous devons croître spirituellement en regardant à lui. Maintenant, examinons le chandelier d'or. La plupart des traductions utilisent le mot chandelier, mais c'était en réalité un pied sur lequel on installait des lampes à l'huile. Versets 31 à 33. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Le texte donne beaucoup de détails au sujet de la fabrication du chandelier, ce qui est un peu ennuyant. Sautons donc au verset 40. Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le chandelier est probablement l'image de Christ la plus parfaite dans le tabernacle. Il est fabriqué d'or pur et il nous rappelle la divinité de Christ. Le chandelier nous enseigne que Christ est Dieu. L'adoration implique marcher dans la lumière et il est important de comprendre cela. En examinant la table des pains de proposition, nous avons vu qu'il est nécessaire que nous nous approprions du Seigneur Jésus-Christ lorsque nous adorons Dieu. Si vous vous rendez à l'église et que l'on vous présente simplement un spectacle ou un débat sur une question sociale ou une discussion pour améliorer notre communauté, alors nous n'avons pas un service d'adoration. Vous participez simplement à une rencontre et Dieu n'y est pas nécessairement invité. Vous adorez Dieu seulement si vous vous nourrissez de la personne de Jésus-Christ. Afin d'adorer Dieu, vous devez aussi marcher dans la lumière. Christ est la lumière et c'est ce que le chandelier dans le lieu saint symbolisait. Si vous désirez de la lumière naturelle, il fallait sortir de la tente du tabernacle. si vous désiriez marcher à la lumière du chandelier, il fallait pénétrer à l'intérieur du tabernacle. L'évangéliste Jean, et je cite, Jean chapitre 1, verset 9, où nous retrouvons cet enseignement. Que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Des personnes font de la relation d'aide et conseillent les autres avec des paroles. Cependant, les philosophies du monde nous induisent en erreur. Notez l'avertissement de l'apôtre Paul dans Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Christ n'est pas simplement un autre philosophe qui obscurcit les desseins de Dieu par des discours sans intelligence. Citation de Job, chapitre 38, verset 2. Christ est le Fils de Dieu, et nous ne trouvons en lui aucun ténèbre. Le chandelier était fabriqué d'une seule pièce d'or. C'était une œuvre de métal battu et très ornée. Un tuyau central supportait le chandelier et de chaque côté il y avait trois branches, ce qui donnait un total de 7 branches. Chaque branche ressemblait à une branche d'amandier avec des fruits et des fleurs. Au bout de chaque branche, il y avait une fleur sur laquelle on posait les lampes remplies d'huile. Les fleurs d'amande semblaient être faites de bois, mais elles étaient en or. Elles nous rappellent la verge d'Aaron qui a fleuri. Lorsque l'on a contesté l'autorité d'Aaron, qui était le grand prêtre, la verge fleurie a démontré son droit d'occuper le poste exclusivement. La branche morte d'amandier a retrouvé la vie et a porté des fruits. Par sa résurrection d'entre les morts, il fut prouvé que Christ était vraiment le Fils de Dieu. Ce n'est pas sa résurrection qui a fait de lui le Fils de Dieu. Il l'était depuis toute l'éternité. La résurrection a confirmé qu'il est le Fils de Dieu. Aaron était la personne que Dieu avait assignée au poste de grand prêtre et sa position fut confirmée par la résurrection de sa verge en amandier. De la même façon, la résurrection de Christ démontre son rôle de prêtre. Christ est notre souverain sacrificateur. Il s'est fait homme et il a pris sur lui notre nature humaine, tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Cependant, c'est parce qu'il est Dieu que Christ est notre souverain sacrificateur. Un prêtre représente l'homme devant Dieu, et Christ, qui s'est fait homme, est maintenant entièrement homme et entièrement Dieu, et il nous représente auprès de Dieu. Il y a quelqu'un au ciel qui me connaît et qui me comprend. Il peut me secourir. La résurrection, qui a démontré qu'il est le Fils de Dieu, a aussi démontré que le titre de souverain sacrificateur lui revient de droit. Maintenant, chers amis, débutons notre lecture du 26e chapitre. 4 tentes couvraient le tabernacle. Une première tente de fin lin couvrait tout le tabernacle, proprement dit, formé du lieu saint et du lieu très saint. Les tapis de fin lin pendaient le long des côtés, mais il ne devait pas toucher le sol. Verset premier. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Ces tapis étaient des chefs-d'œuvre artistiques, chers amis. Verset 7. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. Verset 8. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Chers amis, la signification de ces couvertures est intéressante, mais nous y reviendrons à la prochaine émission. Pour l'instant, préparons-nous en lisant Exode chapitre 26, verset 14 à chapitre 27, verset 21.
Merci, Régent. Eh bien, il est clair maintenant qu'avant de pouvoir adorer Dieu, il faut que notre péché soit effacé par le sang d'un sacrifice. Puis il est réconfortant de savoir que ce n'est pas à nous d'offrir ce sacrifice pour nos péchés, puisque Jésus a été le sacrifice parfait que son Père a agréé pour qu'on soit pardonné. Dieu a donné cet agneau sans tache, son propre Fils Jésus, qui s'est laissé crucifier sur une croix pour nous. Quel amour! Es-tu d'accord avec moi? Connais-tu quelqu'un qui serait prêt à laisser son fils ou sa fille mourir pour payer la rançon d'une autre personne coupable d'un crime? Alors, comme Régent nous l'a enseigné, il faut que notre péché soit effacé par le sang d'un sacrifice pour qu'on puisse adorer Dieu. Et il a ajouté que pour être sûr d'adorer Dieu, on doit se nourrir de la parole de Dieu puis marcher dans la lumière. Et on sait que Christ est la lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire tout homme. Mon ami, sens-tu le besoin de te nourrir de la parole de Dieu? Ça me fait penser à un petit bébé qui vient de naître. S'il est en santé, il a tout de suite faim pour ce bon lait maternel. Et plus il en prend, plus il est en santé. Et plus il est en santé, plus il en veut. C'est la même chose pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Je me souviens du jour où j'ai connu Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur. Dans ma première soirée, j'ai lu les 20 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Et j'ai lu le dernier chapitre le lendemain matin. J'étais un bébé naissant. Mon âme était revenue à la vie et elle avait faim de cette nourriture spirituelle qu'on en retrouve dans la parole de Dieu. Jésus, mon Sauveur, est le pain de vie, celui qui donne la vie éternelle. Puis il s'offre à toi aujourd'hui. Il frappe à ta porte. Entends-tu sa voix? Laisse-le entrer. Laisse-le te donner la vie. Et ensuite, laisse-le nourrir ton âme. Recherche sa présence chaque jour. Tu as la prière pour lui faire part de tous tes besoins. Et tu as sa parole, c'est-à-dire les Saintes Écritures, pour te nourrir et faire de toi un enfant de Dieu fort. Fort par la puissance de Dieu. Ça me rappelle un chant qu'on faisait dans mes premières années à l'Évangile. Un chant qu'on faisait de tout notre cœur. On chantait fort. Puis on disait justement, « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. » Et c'est ça, c'est là qu'est notre force. Elle est en Jésus seul. Notre force n'est pas dans les choses du monde, elle n'est pas en nous-mêmes, mais elle est en Christ, en Jésus-Christ, notre Sauveur Tout-Puissant. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.